Chapitre 14e. Que c'est vivre, quel que soit l'âge. Le soir, après dîner, Zara lave les assiettes dans la cuisine tout en pensant avec inquiétude à son jeune frère.
Il faut absolument qu'il m'avoue ce qu'il veut faire. Si ce n'est pas la Arga 54 sur une barque, c'est alors faire partie d'une bande de voleurs qui s'apprête à faire un coup. Il faut absolument que je découvre la vérité.
En continuant à réfléchir, Zara a une brusque intuition. Aussitôt, elle abandonne le lavage des ustensiles et court dans sa chambre. Elle s'agenouille, se met à plat ventre et glisse sous son lit. Elle y reste un moment, cherchant quelque chose, de manière de plus en plus agitée. Un cri rauque s'échappe de sa poitrine. Immédiatement, elle se retire de sous le lit, se lève d'un bond et se précipite dans la chambre de son père. Il est assis, le goulot d'une bouteille d'alcool entre les lèvres. « Où est mon argent ? » crie-t-elle, furieuse. Il lève un regard vitreux vers sa fille, puis ses yeux changent en dégageant une lumière bizarre. « Ah, quelle chance j'ai eue » réplique-t-il. « Je dois en remercier Dieu le Tout-Puissant. « Je t'ai demandé où est mon argent !» répète Zara. Il laisse tomber sa bouteille qui tombe brutalement sur le sol, se lève en titubant, la bave en bouche, et dans les mains pour enlacer sa fille. Elle le rejette brutalement en arrière, puis recule, effarée, avec un immense dégoût. « Mon argent, où est-il » demande-t-elle encore. Sans tenir compte de la requête et de la colère de sa fille, il avance une deuxième fois ses bras pour lui prendre les hanches. Elle le rejette en arrière tout indignée. « Comme tu es belle quand tu es en colère, plus belle !»« Ce cadeau que Dieu, dans sa sublime générosité, m'a donné, il faut bien que j'en jouisse !»« Sidna Ibrahim, notre Seigneur Abraham, a accepté d'égorger son fils pour prouver son amour de Dieu. Alors toi, prouve ton amour de Dieu en offrant ton corps à ton père !»« Misérable, qui ose te considérer un père ?» lui crie-t-elle. « As-tu oublié ce que tu m'as fait quand j'avais 14 ans ? Maintenant il te faudrait d'abord me tuer !» car je ne suis plus un agneau, et plutôt que mourir, je préfère te tuer et finir le reste de ma maudite vie en prison. » La mère apparaît, portant en main un verre d'huile. Son mari l'apostrophe furieusement. « Tandis que tu vas chercher de l'huile chez les voisins parce que ta fille est incapable de l'acheter, elle m'insulte !» La mère, subitement inquiète, se tourne vers sa fille. « Qu'a-t-il, Zara ? Pourquoi l'as-tu insultée ? Tu oublies que c'est ton père ?» Hors d'elle-même, Zara hurle. « Celui que tu appelles un père voulait me violer. Il l'a déjà fait quand j'avais 14 ans, mais je n'avais rien dit. C'est pour cela que j'avais abandonné la maison. » Totalement consternée par ces horribles révélations, la mère vacille, puis tombe par terre, laissant choir le verre d'huile qui se brise en répandant son contenu. Des coups forts et répétés parviennent de la porte. Zara et ses parents, trop pris par leur drame, ne tiennent pas compte des bruits sur la porte. De nouveau, les mêmes coups se font entendre de manière plus brutale. Une voix tonne. « Ouvrez, police !» Zara va ouvrir. Deux agents en uniforme avancent. L'un d'eux présente l'écran de son portable. « C'est ton frère ?» Zara regarde l'écran. Brusquement, son visage blanchi se raidit. Elle a besoin d'un instant avant de parvenir à dire, d'une voix étranglée. « Où est-il ?»« À la morgue !» répond le policier. « Son corps a été repêché pas loin de la côte, aux abords des îles Abibas, non loin de Corales, avec d'autres corps. » Tous morts suite au naufrage de leur barque. Il a fini de souffrir, barbote le père, tant mieux pour lui. La mère hurle toute sa douleur en lacérant avec les ongles ses joues d'où le sang jaillit et s'éparpille sur le visage. Zara comprend enfin que son argent fait voler par son petit frère pour payer le coût de la traversée clandestine mortelle. Environ une heure après, dans la nuit, à Kuvalawa, cette Rochetar payenne oranaise, où tellement de condamnés de la cruauté sociale, hommes et femmes, jeunes et vieux, se sont jetés pour mettre fin à leur enfer sur terre, à Kuvalawa se trouve Zara. Une deuxième fois, comme à l'âge de 14 ans. Debout, au bord du fatal promontoire, ses yeux fixent les flots sombres. Il se précipite puis se fracasse en mugissant furieusement sur les roches ténébreuses. L'éclat d'une pleine lune jette une lueur funèbre sur l'effrayant gouffre. Zara se reproche vivement à elle-même, à voix haute. « C'est moi la coupable de tous les malheurs de ma famille. Ma mère m'a donné la vie, mais je ne lui en ai pas donné une. Mon père, lui aussi, m'a donné la vie, et je ne lui en ai pas donné une. S'il est méchant, alcoolique et obsédé sexuel, est-ce uniquement sa faute ? Si ma mère est son esclave résignée, est-ce uniquement sa faute ? Mes deux frères, plus jeunes que moi, je n'ai pas été capable de les protéger, et à moi-même, je n'ai pas su me donner une vie digne. En sommes-nous les uniques responsables, mon père, ma mère, mes frères et moi? Tout cela, est-ce le maktoub? Si c'est vraiment la volonté de Dieu, est-elle admissible? Qu'il soit alors responsable de ma mort. Il aura mieux valu me jeter ici la première fois que j'y étais venue, alors à peine adolescente. Je me serais épargné toutes les souffrances que j'ai subies par la suite. Le portable de Zara sonne et y reste indifférente. Les yeux arrivés sur le noir abîme et ses tranchants rochers.
Bientôt ils déchiqueteront mon corps en 1000 morceaux, le faisant disparaître dans les eaux obscures, mettant fin à mon insupportable calvaire.
Un coup de vent violent arrache de la tête de Zara son foulard rouge. Il virevolte rapidement et disparaît vers le fond obscur. Surgit l'impulsion de le suivre en se jetant dans le vide. La sonnerie du portable continue pendant longtemps. La désespérée l'ignore. Son corps tremble de tous ses membres, la bouche s'entr'ouvre, ses yeux demeurent fascinés par ce qui fera disparaître à jamais ses intenables tourments. La sonnerie téléphonique s'interrompt, puis tout de suite après se fait de nouveau entendre, persistante. Dans la tête de Zara, cette sonnerie semble aussi forte que le fracas des vagues sur les roches. La sonnerie continue encore, répétitive. « Drin, drin, drin !»« Maman !» s'écrie brusquement Zara, en reculant un peu en arrière du gouffre. Elle se résigne, la main tremblante, à prendre son portable, l'approche de sa bouche et crie « Maman !» La voix qui lui répond est celle de Karim. Angoissé, il l'informe d'avoir su la mort de son petit frère, puis il lui demande « Où es-tu? Je voudrais te voir. » Totalement bouleversé, Zara ne parvient pas à parler. Karim reprend « Zara, dis-moi où tu es. Je te rejoindrai tout de suite. » Un instant après, au bord de la route près du promontoire, Karim arrête sa voiture. Zara, debout, l'attend. Il la rejoint en courant. Il n'est pas étonné de la voir complètement défaite, le corps frissonnant, le visage ravagé, d'une pâleur épouvantable, les cheveux en désordre, les yeux hagards. Karim comprend. Il tremble à l'idée de ce que Zara fut tentée de commettre. D'un élan soudain, il l'enlace dans ses bras, la serre avec toute la force dont il est capable. Zara demeure, les bras ballants, comme absente. Soudain, elle fond en larmes, la poitrine fortement secouée, tandis qu'elle enlace Karim et le serre. Le serre contre elle, avec tout ce qui lui reste d'énergie. Le lendemain matin, à la morgue de l'hôpital, deux statues pétrifiées, Karim et Zara, sont debout devant un drap blanc. Ils couvrent entièrement le cadavre du jeune Abderrahman. Karim se rappelle une observation stupide de l'arrogant chef de police, vu au commissariat, au sujet de la jeunesse qui ignorait ce que c'est que vivre. À 17 ans, Abderrahman avait déjà trop vécu, constate Karim. Il se souvient du papier laissé par le désespéré à la maison, en évidence sur la table basse du salon, et que Zara montra à Karim. C'était une lettre, écrite en langue maternelle, transcrite en lettres arabes comportant des erreurs. En voici la traduction, sans tenir compte des fautes d'orthographe. « Ma mère, Al-Aziza, littéralement précieuse, très chérie, et toi aussi, ma sœur Al-Aziza. D'abord, toi, ma sœur Zara, pardonne-moi d'avoir pris l'argent de tes économies pour me payer le voyage. J'ai tenté de gagner mon propre argent, mais, comme tu le sais, il me fut impossible de trouver un travail, et je n'ai jamais voulu devenir un voleur ni un vendeur de drogue. Ensuite, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi de vous quitter. Je pars avec la plus grande tristesse de ma vie, mais aussi avec le plus grand espoir. Je vais de l'autre côté de la mer, pour trouver enfin un travail honnête, me permettant de vivre. Dès que j'arriverai sur l'autre rive, je vous téléphonerai, et dès que je trouverai un travail, je vous enverrai de l'argent. J'espère en gagner assez pour revenir vivre avec vous, ou vous emmener avec moi dans le nouveau pays où nous vivrons ensemble. Je vous embrasse et vous serre très fort sur ma poitrine, de toute mon âme. Vous êtes et resterez toujours la date de mon cœur. Ton fils, maman, et ton frère, ma sœur Zara, qui vous aime et vous aimera toute sa vie. Abderrahman. Dans sa lettre, il utilisa l'expression typique employée par sa mère en parlant de ses enfants, date de mon cœur. Accablé, Karim revoit cet enfant si jeune, à peine 17 ans. Son corps petit et maigre, son joli visage, ses yeux d'un bel éclat marron clair au regard si tendre. Un admirable spécimen du peuple méditerranéen, où se sont mélangés tellement d'autres peuples. Karim aimait rencontrer Abderrahman, avait plaisir à le saluer et à recevoir en retour le salut du petit, comme il l'appelait. Au contraire du frère aîné, enfermé en lui-même et hostile aux autres, Karim considérait le cadet totalement à l'opposé, d'un caractère ouvert et jouissant des relations avec autrui. De lui émanait une tendresse très touchante, attirant une irrésistible sympathie. Abderrahmane n'était pas l'esclave du Clément, mais la Clémence elle-même. « Ah !» se confia Karim avec amertume à propos d'Abderrahmane. « S'il était né dans un pays convenable, dans une famille disposant des moyens suffisants pour vivre, quel avenir il aurait eu, utile à lui-même, à sa famille et à son peuple ?» Revenant au moment présent, face à la froide dépouille de l'enfant, Karim a ses autres pensées. Quel dommage! Quel affreux dommage! Avec l'extraordinaire énergie qui anime ces jeunes, et leur admirable courage face au risque de mourir noyé, dommage qu'ils ne trouvent pas la juste organisation pour se battre dans leur pays contre ceux qui les contraignent à fuir sur des barques et obliger ces derniers à s'en aller au diable. Doit-on reprocher à ces adolescents leur comportement désespéré, ou plutôt blâmer ceux qui, se vantant de leur instruction et de leur progressisme, ne savent pas aider ces jeunes à agir, non pas en changeant de pays, mais en changeant le système social criminogène? Suit un très long moment durant lequel Zahra et Karim demeurent immobiles, la tête vide, dans le silence absolu, les yeux rivés sur la glaciale couverture blanche. Voilà quelque temps, Karim avait lu dans les journaux une funeste information. Depuis le début de l'année, environ 1900 émigrés clandestins sur des barques de fortune furent interceptés ou secourus à l'ouest, sans parler de ceux qui périrent, noyés en mer, y compris des femmes et des enfants. En apprenant l'une de ces tragédies, se rappelle Karim, le Moudjahid suicidé s'écria avec une véhémence toute particulière. « Tellement de larmes et de sang, afin que notre peuple recouvre sa dignité. Et voici que le jeune préfère la mort plutôt que de rester dans ce pays. » Pour qui donc flotte le drapeau algérien, sinon pour les salopards qui ont transformé le pays en un paradis pour eux et un enfer pour les enfants du peuple? Et nous, anciens combattants de cette guerre de libération, nous assistons à cette forfaiture criminelle sans pouvoir rien faire. Victorieux de l'armée coloniale française, nous voici vaincus par les usurpateurs autochtones. Quelle honte! Quelle honte! Quelle misérable honte! Cette réminiscence amère de Karim est interrompue par Zahra. Elle murmure, d'un ton étrange, « Sortons, je dois te parler. » Il quitte la salle. À l'extérieur, Karim propose, « Allons dans le local de notre section syndicale. Il est tout prêt. Là, tu peux parler tranquillement. »